avez les questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Bonjour Philippe Munier.
Bonjour Léo, bonjour à tous.
Très heureux de vous avoir à nos côtés sur France Bleu Armorique, dans les studios. J'espère que vous avez eu le temps de jardiner d'ailleurs hier, avec le temps qu'il fait aujourd'hui.
Il fallait profiter du dernier jour de beau temps, parce que voilà, c'est la fin de l'été. Il y a les colchiques dans les prés, oui, bon, on va faire dans les comptines encore. Mais il y a aussi de la pluie dans le ciel. Mais c'est très 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 bien pour nos jardins, c'est super. Des belles températures, donc un sol bien chaud, une bonne ondée là-dessus. Hop, ça va faire pousser les petits semis de la Saint-Fiacre. Mm-hmm. Donc tous ceux qu'on a semés depuis le 15 août, entre le 15 août et le 15 septembre, qui vont nous faire des bons légumes pour certains pour le début de l'hiver, d'autres carrément pour le début du printemps, ouais. Parce qu'en jardinage on a toujours une saison d'avance. Et puis ça va faire pousser plein de choses, dont les champignons. Tiens, oui. Justement, un petit tour aux champignons, qu'est-ce que ça fait du bien.
Ben oui, on adore ça. Aller avec le petit panier comme ça en forêt, ça peut être sympa.
Ouais, ça peut être un grand panier aussi.
Aussi, oui, tout à fait, ouais, ça dépend. Ouais. Si on tombe sur un bon coin,
si on a le flair.
Alors Philippe, vous allez nous donner tous vos bons conseils pour entretenir les plantes, les fleurs, les arbres, bref, n'hésitez pas à venir intervenir, 02 99 67 35 35.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et je vous propose, Philippe, qu'on commence tout de suite avec Ghislaine, qui est à la Gacilly. Bonjour Ghislaine.
Bonjour messieurs.
Bonjour. Alors Ghislaine.
Alors, moi, mon problème, c'est pour les verts fruitiers. J'aurais voulu connaître l'engrais auquel on pourrait leur mettre au pied. Alors j'en ai acheté un avec un NPK de 2,99. Et je voudrais savoir si c'est bien ou s'il faut privilégier autre chose.
Que mettre au pied des arbres pour qu'ils poussent bien, que vous ayez des beaux fruits ensuite?
Alors, il faut faire déjà très attention. Les engrais, c'est bien, quand c'est bien utilisé. Si on abuse des engrais, bien c'est comme nous, quand on abuse des bonnes choses, on fait du cholestérol, des triglycérides, des machins, des bidules, que des trucs pas bien. Et ben les arbres, les arbres fruitiers, c'est un peu pareil. Si on leur en met trop à manger, ben ils vont déclencher tout un tas de symptômes pas très sympathiques. Donc il faut faire très très attention. Il faut une nourriture équilibrée et en quantité raisonnable. Hein, ça c'est vraiment la première chose. Et ensuite faire bien la différence entre les engrais et les amendements. Un engrais, c'est un truc très fort, hein, avec justement un NPK, comme vous le disiez tout à l'heure. Les, les amendements, c'est des trucs beaucoup plus doux, mais qui vont beaucoup plus nourrir le sol qui après nourrira la terre, alors que l'engrais se donne pour mission, si je puis dire, de nourrir directement la plante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le filtre de la terre, donc il n'y a pas une sélection, il n'y a pas une digestion, et du coup, ça, des fois, les plantes, elles pompent sans discernement, parce qu'en plus, les engrais ont tendance à tuer la flore du sol. Il faut faire attention, hein. Donc, moi, personnellement, je suis beaucoup plus amendement. Donc, tout en douceur, on nourrit la terre qui nourrira en plus après la plante et qui, elle, la terre, a tout un tas de, comment dirais-je, de régulateurs qui vont permettre de bien digérer les éléments qu'on va apporter et de bien les faire parvenir à la plante dans des bonnes conditions. Donc, je privilégie largement le compost. Alors, du compost élargi, c'est-à-dire que dans mon compost, je vais pouvoir mettre des tombes de gazon, des feuilles mortes, mais aussi du crottin de cheval, du fumier de poule parce que j'ai des poules, du fumier de lapin parce que j'ai des lapins, voilà, etc. Donc ça va permettre effectivement d'avoir quelque chose de très complet et qui va effectivement apporter bien nourrir le sol, qui nourrira bien les arbres, et ça permet d'avoir des belles récoltes sans avoir à trop se creuser le crâne sur savoir est-ce que j'ai la bonne quantité, etc. Alors pour revenir à votre 2,99, 2 c'est bien, pour en azote c'est pas la peine d'en mettre trop, 9 en potasse c'est bien, 9 en phosphore, en NPK, dans le pays, en potasse c'est bien, en potassium c'est bien, par contre 9 en phosphore, c'est bien ce que je disais, c'est trop. Un 2,4,9 serait largement supérieur. Pour faire des fruits, il faut surtout de la potasse, et le phosphore c'est pas la peine d'en mettre trop, il y en a largement dans les terres bretonnes.
D'accord. Alors autrement, à défaut de compost, est-ce que l'or brun ou le beau chevaux conviendrait?
Oui, alors là où vous êtes sur deux produits complètement différents, faut faire attention. Dans l'or brun, vous avez un produit qui est déjà pré-composté. Alors je parle de marque, mais tant pis, hein. Dans le Beauchevaux, vous avez un produit qui n'a pas été composté, donc qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus fort, et qui j'ai vu plusieurs fois, peut brûler les racines. Alors, le beau-chevaux, c'est typiquement le produit qu'il ne faut pas mettre à la plantation.
D'accord. Hein.
Donc, dans un trou de plantation, vous êtes sûr.
Alors,
c'est pas qu'il serait mieux, c'est deux produits différents, d'origine animale, mais qui ont deux utilisations complètement différentes. Il y en a un qui est déjà prédigéré, l'autre qui n'est pas encore digéré. Donc, il faut faire très attention dans le mode d'application et dans la période d'application. L'or brun, on peut le mettre à peu près toute l'année. Le beau-chevaux, il va falloir l'appliquer plutôt, par exemple, maintenant, pour qu'il ait le temps d'être digéré pendant tout l'hiver pour être utilisé au printemps.
Ensuite, voilà.
D'accord, donc le beau-chevaux maintenant et puis éventuellement l'or brun au printemps.
Voilà, et puis surtout, faites votre compost parce qu'il n'y a rien de mieux que son compost
de maison. Oui, je sais bien, ouais.
Et puis en plus, c'est écolo, ça permet de recycler bien les déchets de la maison.
Au-delà de ça, c'est aussi qu'on fait un très bon produit. Les produits faits au fond du jardin, on se dit, oh non, les usines, elles font ça mieux que moi. Non, c'est pas vrai. Dans la plupart des cas, les composts faits maison sont des très bons composts. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux pour nos arbres fruitiers et pour notre jardin d'une manière générale.
Voilà, Gisèle, vous avez tous les bons conseils pour avoir des boules.
Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous. Belle journée du côté de la Gacilly.
Merci bien.
Monique est à Saint-Avé. Bonjour, Monique.
Bonjour Léo, bonjour Philippe.
Alors Monique, on vous écoute avec votre question qui concerne les hibiscus.
Oui, alors je désirais savoir à quel moment faut-il couper les hibiscus s'il vous plaît, parce que ça fait plus de 2 ans qu'ils ne fleurissent plus. C'est vrai qu'avant je les mettais dehors et maintenant pour des raisons de santé je ne peux plus les sortir. Est-ce la raison? Je ne sais pas. S'il vous plaît Philippe.
Oui, je pense que c'est la raison, malheureusement. Si vous ne pouvez pas le faire, essayez de trouver quelqu'un qui le fasse à votre place, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour faire fleurir les hibiscus. Ils ont besoin de beaucoup de lumière. Donc, les sortir pendant toute la période de fin mai à fin septembre, c'est très bien, et c'est ce qu'il leur faut pour bien fleurir. Alors, par contre, pour la taille, bon, globalement, comme ça fleurit toute l'année, on peut les tailler très légèrement, dans ce que j'appelle des petites tailles de propreté, donc des tailles très très légères, on peut le faire toute l'année. C'est-à-dire que quand un bouquet a fini de fleurir, eh bien, on supprime le bouquet et la partie du bois qui a été fabriquée pour le mettre en valeur. Donc la partie du rameau, le rameau qui portait les fruits, on le supprime aussi. Et ça, c'est des petites suppressions, c'est des petites brindilles de bois, il n'y a aucun souci. Par contre, si on veut faire une taille un petit peu plus sévère, même s'il y a des boutons, même s'il y a des fleurs, ça se fait systématiquement entre, on va dire grosso modo, le 15 janvier et le 15 mars au plus tard.
Voilà.
Au mois de mars.
Exactement. Voilà. Vous attendez un peu dans ces cas-là pour ensuite avoir vos hibiscus.
Je vous remercie Philippe et Léo. Bonne journée.
Bonne journée, bonne Monique. Journée, à bon très dimanche. Bientôt. Aimé est à nos côtés. Bonjour Aimé.
Oui, bonjour.
Alors Aimé.
Oui, je téléphone parce que j'ai sur mes poiriers, là, j'ai pratiquement toutes les feuilles ont des grosses taches oranges sur la partie surface, le dessus, et puis le dessous, dans le même calibre des taches. Dessous, ce sont des grumeaux assez forts et assez durs. Et sur ces grumeaux, en ce moment, il n'y a pas longtemps, ils poussent des tout petits brins blancs, comme si c'était des toutes petites racines, très souples. Alors ça paraît bizarre, j'ai jamais vu ça.
Ouais.
Moi, ça fait 70 ans que je suis dans un jardin.
Et ça fait 70 ans que vous n'avez jamais vu ça.
Voilà.
Donc ça viendrait d'où, ces petits...
Pardon ?
Non, je suis en train de reposer la question, surtout, ça viendrait d'où, ce souci ?
Aimé, vous m'avez envoyé une enveloppe avec des feuilles, c'est ça ? Il y a quelques semaines.
Mais bon, je voulais pas vous en parler parce que... Pas non plus que... Bon, voilà. Enfin bref.
Alors donc, il y avait et des feuilles de peuplier et des feuilles de poirier, si ma mémoire est bonne, c'est ça ?
Ce n'est que des feuilles de poirier, ouais. Et puis un petit peu le pommier aussi, mais tous les poiriers, ils sont atteints, il y a 4 ou 5 poiriers dans un espace pas très grand, mais quand même, ils ont la même chose, et puis en ce moment, les feuilles, elles tombent très rapidement, et puis mais je me demande quoi faire pour traiter en ce moment, puis au printemps.
Alors en fait, donc cette maladie, ça s'appelle la rouille grillagée du poirier. Donc c'est vraiment une maladie spécifique du poirier. C'est un champignon. Donc ce que vous voyez en ce moment, justement, comme il fait chaud et humide, comme je le disais tout à l'heure, eh bien le champignon, il est en train de redémarrer pour sporuler allègrement et donc bien contaminer vos poiriers. Donc il faut absolument supprimer les feuilles les plus atteintes, les brûler, récupérer les feuilles au sol et les brûler. Alors on fait pas un grand feu, d'abord parce que c'est interdit de brûler des déchets verts, donc vous aurez profité de faire un petit barbecue et hop, vous mettez les feuilles au démarrage, histoire de parce que ce sont des petits volumes.
coup de chalumeau en dessous.
C'est un petit coup de chalumeau pour bloquer le champignon. Sachant que la rouille grillagée, il faut qu'elle passe par un autre intermédiaire qui s'appelle le genévrier. Donc il doit y avoir quelque part, soit dans votre jardin, soit dans le jardin du voisin, un genévrier qui sert d'hôte intermédiaire. C'est obligatoire, hein, sinon la rouille ne peut pas se développer. Donc ce qu'il faudrait, c'est savoir où est ce genévrier. Éventuellement, si on peut le supprimer, ce qui permettra d'éviter l'hôte intermédiaire. Donc il n'y aura plus de rouille dans votre verger. Alors des fois, ce n'est pas possible parce que le voisin ne veut pas le supprimer. Ou alors vous ne le trouvez pas parce que il est caché derrière un mur et que vous ne le voyez pas. Donc,
le genévrier, je ne vois pas trop bien ce que c'est.
Toutes les plantes du genre Juniperus. Alors après, il y a les genévriers comme on les voit un petit peu en Provence, dans tous les coteaux calcaires, parce que les genévriers européens poussent sur des sols calcaires. Par contre, les genévriers américains, je crains que ça ne soit un genévrier américain, eux, ils poussent en sol acide, et ça tombe bien, en Bretagne, on est sur des sols acides.
Ils poussent plus en Bretagne, alors.
Ils poussent très bien en Bretagne, absolument.
Je vois ça parce que j'ai un voisin qui est pas très loin, mais bon, moi je ne vois pas ça chez lui pour l'instant en tout cas.
Faut poser la question au voisin.
Non plus.
Hein, ça permet de discuter avec les voisins.
Donc brûler, ça c'est le premier traitement, et ensuite au printemps.
Alors de toute façon, il faut faire très attention. Il faut faire très attention en fait à la nutrition de vos arbres.
Très bien, là.
Vous faites très attention à la nutrition de vos arbres. Hein. On vient d'en parler avec l'histoire de compost et d'engrais. Très souvent, la rouille grillagée se développe sur des arbres qui ont une nourriture déséquilibrée. Hein. Donc en fait, par exemple, un poirier, il a besoin d'un tout petit peu de calcaire, très peu parce qu'il ne supporte pas le calcaire, mais il en a quand même besoin d'un tout petit peu, de l'ordre de 1 à 2%. S'il n'a pas ce 2%-là, ça lui plaît pas, et du coup, il peut développer une rouille grillagée. Donc il faut faire tous les ans des tout petits apports de calcaire sous forme de carbonate de chaux qu'on trouve dans les jardineries, mais on est sur une poignée par poirier et par an, c'est pas plus.
J'en mettais jamais, moi.
Voilà, ce petit peu-là, il est indispensable. De la même manière de mettre un bon compost, alors on peut mettre une bonne couverture de feuilles mortes au fur et à mesure qu'elles tombent. Alors des feuilles mortes non malades, évidemment, celles de la rue grillagée, on en a parlé, elles ont pris un coup de chalumeau. Par contre, vous pouvez ramener du chêne, du châtaignier, de ce que vous voulez, du tilleul, du saule, etc. Il n'y a pas de souci. Hein, les maladies de ces arbres-là ne vont pas sur le poirier. Et puis, au printemps, apporter un bon compost bien digéré, bien noir, là, pas trop gras. Et dans ces conditions-là, votre arbre est bien nourri, il a eu son calcaire, il a eu son humus, il a tout ce qu'il faut. Donc, dans ces conditions-là, il se développe beaucoup mieux. Mais, de toute façon, il va falloir faire attention aussi à faire des traitements préventifs avec des huiles essentielles, comme j'en ai déjà parlé, donc à l'huile essentielle de sarriette, sarriette des montagnes. Et dans ces conditions-là, normalement, ça ne doit pas revenir. Surtout si vous trouviez le genévrier.
Voilà donc les conseils ce matin pour vous aimer, pour ensuite avoir le poirier qui va peut-être repartir, on l'espère bien, comme ça, il n'y a pas de raison.
Ils vont redémarrer, mais après, ils sont pas en forme. Quoi.
Voilà, ils ne sont pas en forme. Ils sont un petit peu malades. Oui, c'est normal, c'est l'automne. Hein, on commence à avoir les petites maladies. Merci à vous, aimer. 02 99 67 35. 35, c'est le numéro de téléphone si vous avez une question à poser ce matin à Philippe Munier, notre jardinier qui est avec nous jusqu'à 10h. France Bleu.
Une minute pour l'environnement.
En Bretagne, des citoyens, des associations, des collectivités prennent des initiatives pour l'environnement. Je vous raconte chaque jour leurs actions, l'actualité, les bons gestes, les sites naturels protégés et les idées pour un avenir durable. La Minute Environnement, du lundi au vendredi à 9h45 et 14h45, le week-end à 7h45 et en podcast sur francebleu.fr.
La Minute Environnement sur France Bleu Armorique avec Bruno Gola. France Bleu Armorique. France Bleu.
9h23 sur France Bleu Armorique. Et dans quelques instants, nous allons accueillir Agnès qui est à Fougères, qui a des questions concernant des fruits. Réponse dans quelques minutes de Philippe. En attendant, voici Madonna.
Comment pourrait-il être en état ?
Lisa Bonita, Madonna, à l'instant sur France Bleu Armorique.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et ce, comme chaque dimanche sur France Bleu Armorique, Philippe qui répond à toutes vos questions, 02 99 67 35 35. Agnès est à Fougères. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Agnès.
Bonjour à tous les deux.
Vous avez des petits soucis.
Je vous appelle au sujet d'un myrtillier que nous avons planté il y a 3 ans environ. Mm-hmm. Et alors, il donne rien du tout, 200 grammes de fruits cette année. C'est vraiment ridicule. Par contre, j'ai vu une chose, il n'est pas loin d'un romarin. Est-ce que ça l'empêche de pousser?
Mm-hmm. Est-ce qu'elle ne ferait pas une mauvaise cohabitation, Philippe, cette plante?
Alors, en fait, là où le romarin se plaît, la myrtille ne va pas se plaire, et lycée de Versailles, si je puis dire. Donc, effectivement, vous avez bien raison de mettre le doigt sur ce point-là, parce qu'en fait, la myrtille, le myrtillier, donc c'est des myrtilles américaines, les blueberries, ce sont des plantes, des arbustes qui peuvent monter assez haut. Hein. Certains montent à 2,53 mètres, 3 mètres hein, quand même. Bon, en moyenne, on est plutôt vers 1,50 m, 1,80 m. Mais ils ont besoin de terre acide. Ça, en Bretagne, on a ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais aussi et surtout d'une bonne irrigation. Il faut absolument qu'ils aient une bonne irrigation, et particulièrement grosso modo du mois de septembre au mois d'avril-mai. Hein, s'ils ont un petit peu les pieds plus au sec, le reste du temps, c'est pas grave. Par contre, à l'inverse, le romarin, lui, moins il a d'eau, plus il est content et plus il est beau. Donc si le romarin est beau, la myrtille ne sera jamais belle, et l'inverse est vrai aussi. Donc je pense qu'il est 3 ans, c'est encore transplantable. Vous choisissez maintenant un bon endroit pour la myrtille, sachant ce que je viens de vous dire, qu'il faut que il y a un petit peu plus d'eau, et puis surtout une bonne terre bien acide, hein, c'est très important, quitte à rajouter un tout petit peu de tourbe à la transplantation, et vous choisissez un bel endroit avec du soleil, il a besoin de soleil, hein, et dans ces conditions-là, il va remettre un an ou deux à s'en remettre de sa transplantation, et après il repartira vous donner, mais là pour le coup il y aura plus que 200 grammes, j'espère pour vous qu'il y aura plus facilement 2 kilos.
Pour pouvoir faire ensuite des tartes, ou je ne sais pas, des confitures, c'est ça le but, Agnès.
Je vous remercie, monsieur.
Merci, Agnès. Bonne journée. Très belle journée à Fougères. Au revoir.
Bon dimanche.
Madeleine est à Lamballe. Bonjour, Madeleine.
Bonjour.
Madeleine, des soucis avec des orchidées. Enfin, une orchidée, a priori.
Oui, voilà. Bonjour, Philippe. Et bonjour, Léo. J'ai une très belle orchidée qui a une très belle ampe florale. Et elle a parallèlement d'autres anciennes tiges sur lesquelles poussent des feuilles. Et je ne sais pas si je dois laisser ces tiges, parce que j'ai peur que ce soit au détriment de la ampe florale.
Alors, a priori, vous n'êtes pas sur une orchidée classique, vous n'êtes pas sur une phalaenopsis, vous êtes plutôt sur un dindrobium ou sur un...
C'est l'orchidée qu'on trouve partout.
C'est la phalaenopsis, d'accord. Voilà. Donc, de toute façon, s'il y a des feuilles qui se développent, dans ce cas-là, ce n'est pas du tout au détriment de la fleur. La fleur, elle, la plante, en fait, quand elle part en fleur, surtout une orchidée, elle a déjà stocké tout ce qu'il fallait pour la fleur. Donc, en fait, ce qu'elle fait là, au contraire, faut pas oublier que c'est dans les feuilles que se fabrique la sève qui va nourrir la plante. Donc, quand il y a des feuilles qui se développent, c'est pour fabriquer de l'énergie, fabriquer de la bonne sève brute qui va permettre de nourrir la plante et permettre de faire les prochaines ampes florales. Donc, c'est exactement ce qu'elle est en train de prévoir. Les plantes ont toujours un cran d'avance par rapport à nous, en tout cas par rapport à notre pensée générale. Donc, il faut, voilà, elle est déjà en train de préparer la prochaine floraison, alors que la première n'est pas encore finie. Et c'est le miracle de la nature et de la botanique.
Donc, ça veut dire qu'elle va plutôt bien, normalement.
Ça veut dire qu'elle est en pleine forme. Voilà, absolument.
Donc, je l'ai bien nourrie.
Donc, voilà, pas d'inquiétude a priori, Madeleine. Et puis ensuite, vous allez pouvoir avoir de magnifiques fleurs.
J'avais une autre petite question
rapidement.
Au sujet des feuilles de rhubarbe.
Rapidement, Madeleine.
Est-ce qu'on peut les mettre dans le compost?
Évidemment. Si vous n'en avez pas 3 tonnes, il n'y a pas de souci.
Non, vous inquiétez pas.
Bon, voilà, il n'y a aucun souci. Les feuilles de rhubarbe, elles sont faites comme toutes les autres feuilles pour se décomposer. Alors, c'est vrai qu'elles sont très riches en acide oxalique. Alors, on a peur, on dit, ah oui, c'est toxique, tout ça. Mais non, rien n'est toxique pour la nature. Elles se recyclent. Les végétaux se recyclent tous. Et heureusement, sinon, on serait envahis. On marcherait dans une espèce de jungle de végétaux. En non décomposé, ça serait horrible.
Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, Madeleine. Merci à vous et puis bonne journée du côté de l'Emballe.
Bonne journée également.
Merci, au revoir. Isabelle est à Josselin. Bonjour Isabelle.
Bonjour à vous deux. Bonjour Philippe, bonjour Léo.
Bonjour Isabelle. Alors Isabelle...
D'abord merci pour vos conseils. Hein. Philippe, vous avez déjà donné plusieurs fois la réponse, mais je vous appelle parce que concernant la maladie des taches noires sur les rosiers, le traitement, vous l'avez dit et redit, puis j'ai jamais noté. Je suis impardonnable.
Voilà, ah là là.
Pendant que je fais ma toilette, je devrais avoir un papier et un crayon.
Voilà, je suis content que vous vous battiez la coulpe. C'est bien, c'est dimanche matin, c'est normal. Allez, donc, vous avez papier crayon, là, c'est bon ?
Oui, bah bon, voilà, alors, surtout que c'est le savon noir qui commence par brio et qui finit par chin, mais...
Voilà. Non, même pas. Sûre. Non, non, même pas, là, c'est encore plus simple que ça, c'est encore plus simple. Un litre d'eau.
Un litre d'eau, voilà.
Ça va. Bon, du robinet, vous la laissez d'abord s'oxygéner pendant 24 heures, si elle vient du robinet.
L'eau de pluie.
Alors, l'eau de pluie, c'est encore mieux, voilà. Si vous avez de l'eau de pluie, c'est super. Bon. Et dedans, vous mettez une cuillère à café rase.
Une cuillère café.
Rase. Je précise.
Café.
Voilà.
Il y en a plein qui notent, là.
De bicarbonate de sodium. Ou bicarbonate de soude, son vrai nom, c'est de soude.
Voilà, bicarbonate.
Voilà, c'est aussi bête que ça.
J'appelle ça bicarbonate de soude, moi. Mais
oui, mais son vrai nom, c'est de sodium. Voilà, c'est tout.
Oui, bah, c'est, voilà.
Le soude, c'est le nom d'avant.
On secoue.
On secoue et on pulvérise toutes les 3 semaines.
Voilà, c'est ça. Alors, on secoue, pulvérisation, une fois. Toutes les 3 à 5 semaines,
mais maintenant ça sert à rien. Hein.
Oui, ça
commence au moment de la taille, donc fin mars, et vous faites ça toutes les 3 à 5 semaines suivant la météo, jusque fin juillet, début août.
D'accord.
Et après, ça ne sert plus à rien.
Parce qu'elles sont pleines, elles sont toutes noires, je les enlève. Je peux le faire maintenant quand même.
Ah bah si vous avez une attaque, normalement il n'y a plus trop d'attaques maintenant, mais si vous avez une attaque, oui, faites-le, absolument. Et ramassez surtout les feuilles au sol.
Et puis je rince après.
Non, c'est la pluie qui s'en charge.
C'est la pluie qui s'en charge.
Oui.
Bon, ben ok, merci beaucoup. Quand est-ce que vous allez écrire un livre?
Jamais, je suis un bavard, moi, je suis pas un écrivain.
Parce qu'on repose toujours les mêmes questions.
Mais c'est pas grave, Isabelle, ça permet de renouveler. Et puis pour celles et ceux aussi qui arrivent, qui n'auraient pas eu les conseils, ça peut être bien. Bon, Isabelle,
merci beaucoup.
Si je suis courageux, je ferai un DVD.
Bon dimanche à tout le monde.
Merci Isabelle, et puis je vais venir ramasser les copies dans quelques minutes, hein. Attention. Bonne journée, bon dimanche. 02 99 67 35 35, c'est vrai, des fois on répète les mêmes conseils, mais c'est bien pour les jardiniers.
Mais enseigner, c'est répéter. Hein.
Exactement, c'est ça, tout à fait, vous avez raison Philippe. 02 99 67 35 35, si comme Isabelle, eh bien vous avez une question concernant le jardin, n'hésitez pas à venir ce matin.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Faire oublier une seconde la douleur. Si une chanson a le pouvoir de faire communier tout le monde en douceur, alors il faut chanter. Alors il faut chanson tombée du ciel, sortie d'une malle ou d'une armoire peut aider. Si cette chanson est de celles qui peuvent ramener l'espoir et la paix, alors il faut chanter. Alors il faut ils ont de la peine. Une chanson peut se présenter au parloir. Si sans appeler à la haine, elle sait allumer une flamme dans le noir, alors il faut chanter. Alors il faut chanter.
Chanson, le nouveau titre de Florent Pagny à l'instant sur France Bleu Armorique.
Waouh, Michel, quelle classe! T'as un rendez-vous galant?
Ah, mieux que ça, je reçois mon opticien.
Optique 2000 innove avec son nouveau service, Optique 2000 à domicile. Désormais, si vous avez des difficultés à vous déplacer, choisissez vos lunettes chez vous avec un opticien Optique 2000. Pour découvrir le service Optique 2000 à domicile, appelez le 0809 54 2000. Et comme toujours, votre opticien s'occupera de tous les papiers.
Optique 2000!
Une nouvelle vision de la vie.
Conditions et liste des magasins au 0809 54 2000 ou sur optique2000.com. Service gratuit plus prix de l'appel. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
Ah, Chantal, là-dessous, vous allez encore nous parler d'Akena, je suppose. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres?
160 000 vérandas.
Non, mais vous ne seriez pas un peu de Marseille, vous?
Non, je viens du Nord, et Akena de Vendée. D'ailleurs, c'est là que leurs vérandas sont fabriqués. Ça, c'est pas du blabla. Déjà 160 000 vérandas, vous vous rendez compte? Ils savent de quoi ils parlent chez Akena, ah oui. Akena, la reine des vérandas et des pergolas.
Un événement exceptionnel qui n'a lieu qu'une fois par an va ouvrir ses portes le 28 septembre. Le Salon des véhicules de loisirs de Paris-le-Bourget.
Eh oui, si vous voulez acheter un nouveau camping-car et être sûr de faire le meilleur choix, allez au Salon des véhicules de loisirs de Paris-le-Bourget du 28 septembre au 6 octobre. Vous y découvrirez toutes les marques françaises et européennes, toutes les nouveautés et même une piste d'essai de camping-car. Vos billets à tarif réduit 7 euros au lieu de 12 sur salonvdl.com.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et Philippe à nos côtés pour prodiguer tous ces bons conseils pour avoir un beau jardin et puis pour vous aider quand vous avez un souci. Tiens, d'ailleurs, Joseph a une question pour vous, Philippe. Bonjour Joseph, déjà dans un premier temps.
Oui, bonjour Philippe et bonjour à vous aussi.
Alors Joseph, expliquez-nous qu'est-ce que vous avez comme souci. Je crois que c'est avec vos fruits.
Cette année les pommes ont toutes des verres. J'avais mis un piège à carpe au carpe, théoriquement, là, l'espèce de papier ondulé sur le tronc, mais elles ont toutes des vers. Et puis maintenant, on est à la saison, quand il fait du vent aux appuis, là, elles tombent. Et il y en a même qui pourrissent directement, là, dans l'arbre. Alors, je me demande comment je vais pouvoir les conserver, parce que j'en ai, je sais pas, une centaine de kilos, là. Et puis les coins, alors habituellement ils ne pourrissent pas, les coins tombent et ils sont pourris. Ouais, c'est une année pourrie alors.
Ah bah c'est une année pourrie pour vous, pour la récolte, oui Joseph, c'est pas top.
Ça peut arriver. Alors dites-moi, la pourriture qu'il y a sur vos coins ou sur vos pommes, c'est une pourriture qui est assez circulaire avec des petits points blancs?
Voilà, c'est ça, oui.
Ouais, c'est ce que je craignais.
Non, c'est ça. C'est la pourriture botrytis, non?
Non, c'est pas le botrytis, c'est la moniliose. Wow. Et c'est encore pire.
vous avez tiré
voilà,
le gros lot.
Voilà. Donc, le carpocap, c'est le problème est assez facilement solutionnable. Il faut trois bestioles pour bien résoudre le problème de carpocap. La bestiole numéro 1, c'est la chauve-souris, parce qu'elle vole à la même heure que monsieur et madame carpocaps quand ils font leurs petits ébats. Donc, hop, elle les mange. Comme ça, le problème est réglé. Deuxième chose, lorsque madame carpocaps a quand même réussi à pondre ses œufs, eh bien, le deuxième auxiliaire, c'est la mésange, parce que la mésange, c'est le prédateur numéro un des chenilles. Mmh. Et qu'entre le moment où la petite chenille naît et le moment où elle va se cacher dans une pomme, il se passe ça peut être 24 à 48 heures. Et donc, pendant ce temps-là, s'il y a des mésanges en quantité suffisante, elle boulotte les petites chenilles. Et la bestiole numéro 3, c'est la poule, parce que lorsque la petite chenille a fini de manger sa pomme, sa poire, ou son coin, ou sa noix, ça tombe par terre. Là, elle rentre dans le sol et elle va faire sa nymphose dans le sol, et si la poule arrive par là, elle sent que ça se passe par ici, elle gratte et elle mange la nymphe ou encore la chenille, tout dépend. Voilà. Donc ça permet de résoudre le problème. Ça, pour le carpocaps, quand on a des nichoirs à chauve-souris, des nichoirs à mésange et des poules au pied, on est tranquille, on n'a plus de carpo, ou en tout cas, on a une quantité raisonnable de carpo qui permet de...
Voilà. Les phéromones, ça marche quand même.
Alors, les phéromones, en fait, ça marche dans la mesure où ça vous indique qu'il y a des messieurs et des madames qui sont en train de faire leur vol nuptial en ce moment. Mais de là à dire que le piège va tuer suffisamment de mâles pour empêcher la procréation, j'ai un doute.
Donc, voilà. Moi, l'année dernière, j'avais utilisé une autre solution, parce que cette année, j'ai acheté un produit qui était avec un carton ondulé, alors que l'année dernière, j'avais une petite maison dans laquelle j'avais mis un produit, et là, je comptais des
les mâles.
Voilà, là, j'en comptais quelques-uns. Bon. Mais peut-être l'année aussi était plus favorable, il y en a eu moins. Alors que là, il y a des trous partout. Hein.
Alors, en fait, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a les pièges à phéromones, effectivement, comme vous dites, les petites maisons avec un produit, un patch qu'on met dessus. Mais le carton ondulé, c'est une autre chose. C'est en fait, quand la chenille ne tombe pas par terre avec le fruit, elle descend tranquillement le long du tronc. Et quand elle trouve le carton ondulé, elle se dit, tiens, c'est bien, là, je vais pouvoir me nymphoser ici. Donc, elle s'arrête dans le carton ondulé, ce qui fait qu'à la fin de la période de reproduction, donc la première, elle a lieu, grosso modo, on enlève le carton fin. Mais, et puis là, dans le deuxième cas, on enlève le carton maintenant, et on trouve effectivement des nymphoses, et il suffit de brûler le carton et l'affaire est close. Mais ça ne piège pas les mâles. Les mâles, c'est effectivement le piège à phéromones, donc celui où on met un petit patch et qui attire les mâles, et là, vous comptez les papillons, comme vous disiez. Mais ça, c'est vraiment, on va dire que ce sont des outils, à mon avis, additionnels. Les trois que je vous ai cités, ce sont ceux qui marchent le mieux. Ça permet de faire descendre la population de carpocaps. C'est un niveau acceptable pour le verger. Voilà.
Oui. Voilà, faut pas hésiter dans ces cas-là à servir de la nature, comme on le dit souvent,
absolument.
Pour pouvoir réussir à éradiquer le problème, ou en tout cas le diminuer. Peut-être éradiquer, c'est pas le terme.
Non, éradiquer, c'est pas le mot. Non, on va l'enlever celui-là.
Exactement. J'ai peut-être dit le mauvais mot. Oh là là, je vais me faire taper sur les doigts. Voilà, Joseph. On espère qu'on aura quand même répondu à vos questions ce matin pour pouvoir bien résoudre vos problèmes avec les pommes et puis peut-être les coins qui sont en train de tomber et peut-être rattraper un peu bien pour la prochaine.
Pour l'année prochaine.
Exactement.
Voilà.
Pierre est avec nous, à Plouermel. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous.
Alors Pierre, vous avez-vous un souci avec une clématite? Que se passe-t-il?
Oui, c'est pas un souci, elle est envahissante, elle est en pleine santé, puis elle prend toute la place des autres plantes qui sont autour. Quoi.
Voilà, c'est ça, c'est beau une clématite, mais quand ça commence à devenir un peu trop encombrant, c'est un peu embêtant.
Bon, d'un côté il y a un rosier rouge grimpant, de l'autre côté un jaune, tout ça, ça se mariait bien, mais en 8 ans, elle a pris la place de tout le monde, et puis elle est en train de les étouffer. Quoi.
Alors dites-moi, elle s'appelle comment cette clématite?
Montana.
D'accord, c'est ce que je pensais.
C'est celle qui grimpe le plus, je crois. Hein,
c'est celle qui se développe le plus. Mais par contre, c'est celle qui supporte bien la taille aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à la tailler juste en fin de floraison. Et quand je dis fin de floraison, ça veut dire qu'il y a encore des fruits dessus, des fleurs fanées.
Il y en a encore 3 ou 4 des petites blanches qui sortent.
Ouais, mais je vous parle du gros de la floraison.
Ah, oui, hein. D'accord.
Donc, grosso modo, on est sur le mois d'avril, mai, hein, en général. D'accord. Donc, à ce moment-là, dès qu'elle a fini sa floraison, vous la taillez, vous supprimez tout le bois qui a fleuri. Vous ne gardez que la liane elle-même et donc vous coupez tous les rameaux qui ont fleuri. Et
ce qui fait du pied, il part au moins 7 à 8 lianes, hein, à peu près 5 centimètres de diamètre. Hein.
Faut peut-être pas les laisser toutes, peut-être.
Hein. Peut-être
qu'on peut faire une sélection. N'en garder que 3, par exemple, et puis enlever toutes les fourches qui peuvent se former un petit peu plus haut, de manière à vraiment restructurer cette clématite, ce qui fait que tous les ans, juste après la floraison, donc elle va pouvoir s'exprimer sympathiquement, puis amener son doux parfum de vanille au chocolat, que j'adore, hein,
chez la Montana. Bon, c'est magnifique, tout voilà. Partout, ça, c'est
et en fleurs. Par contre, dès qu'elle aura fini de fleurir, vous aurez une ligne de conduite ferme, parce que vous aurez une belle structure, et vous pourrez revenir directement sur la liane, et donc la calmer, ce qui permettra aux deux rosiers de s'exprimer tranquillement après. Comme ça, c'est chacun son tour, voilà. Et on ne pique pas la place des autres.
Chacun sa place, exactement.
D'accord. À égalité. Bah, c'est, fin avril, début mai, quoi, quand la fille est fleurie, c'est ça.
Vous affûtez bien le sécateur, vous le désinfectez, et puis il n'y a plus qu'un.
Voilà. Pour vous, Pierre.
Merci. Je vous remercie.
Merci à vous et puis on vous souhaite bonne journée du côté de Plohermel.
Ah, puis beaucoup d'eau.
Ah bah oui, exactement.
Absolument.
Aujourd'hui.
Mais pour ça fait du bien.
Ça fait du bien, comme on le dit, parce qu'on a eu quand même des périodes assez sèches là, durant cet été, donc ça fait du bien d'avoir un peu de pluie qui arrive.
Pas un peu, beaucoup.
Beaucoup.
Si on peut avoir beaucoup, c'est bien.
Exactement. Merci à vous, Pierre.
Bonne journée.
On passe de Pierre à Jean-Pierre, qui est à Lanvalet. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Jean-Pierre, alors, une question concernant les kiwis à poser à Philippe. Expliquez-nous.
Oui, disons que j'ai une grosse production de kiwis et j'ai une machine à mettre les aliments sous vide. Et si à la cueillette, je les mets sous vide, est-ce que ça va me prolonger la conservation?
Alors, très franchement, vous me posez une colle. Je n'ai jamais essayé. Hein, bah oui,
ça arrive. Hein.
Donc il faut essayer Jean-Pierre, et puis vous, par contre je veux bien que vous nous disiez ce qu'il en est, parce que effectivement quand on met les kiwis ensemble, eh bien ils émettent, on sait que les kiwis ils émettent un gaz hormone qui s'appelle l'éthylène et qui favorise la maturation de tous les kiwis en même temps. Donc c'est pour ça que quand on les stocke, il faut les mettre dans des endroits très ventilés pour empêcher la stagnation du gaz et qui fait tout mûrir en même temps. Donc peut-être qu'effectivement sous vide le fruit ne respire plus. Et peut-être qu'ils se gardent beaucoup plus longtemps. Je n'en sais rien. Mais si vous faites l'essai, eh ben je veux bien avoir le résultat. Ça m'intéressera énormément.
Ah, vous savez, Jean-Pierre, vous faites le test et puis vous nous rappelez peut-être la semaine prochaine ou un peu plus tard.
Non, plus tard. Faudra rappeler au mois de mars.
Ah, je ne sais pas combien de temps, c'est pour ça.
Ah, bah, kiwi, ça peut se garder normalement jusqu'au mois de mai. Hein.
D'accord.
Si tout va bien, si on a un bon local frais et ventilé, on peut garder les kiwis jusqu'en mai.
Oui, c'est vrai que c'est un peu tôt la semaine prochaine.
Parce qu'ils disent que la machine à mettre les aliments sous vide, ça prolonge les conservations. Alors, c'est pour ça.
Oui, non, mais tout à fait. Dans le principe, je suis complètement d'accord avec vous. Maintenant, je ne sais pas si le fait de ne plus avoir de respiration, le fruit va se garder. J'en ai aucune idée. Donc, si vous faites l'essai, c'est avec plaisir que je prendrai les résultats puis qu'éventuellement je les diffuserai.
Exactement. Vous faites le test et puis vous n'hésitez pas à nous rappeler un peu plus tard. Merci à vous, Jean-Pierre, pour cette question. En tout cas, ça nous aura permis de nous questionner. Et puis, comme on le dit, Philippe, vous n'avez pas réponse à tout non,
non,
plus,
non, 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 heureusement.
Nous allons arriver dans quelques minutes avec d'autres questions. On aura Jacques et Annick pour terminer ce Jardin Bleu avec Philippe Munier qui continue de répondre aux questions ce matin.
France Bleu présente Le Grand Bleu en ciné-concert, le film culte de Luc Besson pour la toute première fois en tournée. Le Grand Bleu. Pour célébrer les 30 ans du film, le compositeur Éric Serra et ses musiciens interprètent sur scène la bande originale pendant la projection. Une expérience immersive exceptionnelle. Le Grand Bleu en ciné-concert. Du 4 au 31 mars 2020, en tournée dans toute la France. Et dimanche 22 mars à Paris, au Palais des Congrès. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Nous sommes un lien.
Un lien entre les gens.
Un lien de confiance et de solidarité.
Qui permet à tous de veiller sur chacun.
Nous sommes aussi un lien qui va plus loin.
Une nouvelle mutuelle dont le rôle n'est pas seulement de rembourser vos frais de santé.
Mais aussi et surtout de vous aider à vivre mieux.
Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de le faire ensemble.
Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle.
Qui se construit pour et avec vous.
Aesio.
décidons ensemble de vivre mieux.
Groupe Aesio, numéro Oria 16 00 69 68. Plus d'informations sur aesio.fr.
Bon, alors c'est pas tout ça, Chantal Latsou, mais Akena par-ci, Akena par-là, vous n'avez qu'Akena à la bouche. Mais question innovation, c'est quand même pas très clair, excusez-moi.
Clair quoi, clair? Le vitrage? Vous ne connaissez pas le vitrage sèche-glace?
Bah non, ça sert à quoi?
C'est une innovation de Saint-Gobain adaptée pour Akena, qui régule la lumière et la chaleur dans la véranda. Est-ce bien clair pour vous, chère madame?
Oui.
Akena, la reine des vérandas et des pergolas.
Vous avez plus de 18 ans et vous êtes en tutelle ou curatelle? Vos droits changent. Vous êtes libre de voter aux élections. Vous pouvez aussi vous marier ou vous pacser avec la personne que vous aimez, simplement en informant votre tuteur ou curateur. Parlez-en à vos proches. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur justice.fr.
France Bleu Armorique. Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Avec nos deux dernières questions de la matinée, nous allons avoir Annick d'ici quelques instants, mais nous commençons avec Jacques qui est à L'Envolon. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Alors Jacques, une question concernant le compost. Expliquez-nous.
Ben voilà, j'ai un grand plan d'eau et j'ai le focard de tous les ans. En ce moment, j'ai beaucoup de boue noire et de plantes aquatiques que je retire. C'est très gras. Je les fais sécher. Est-ce que je peux les utiliser dans mon compost ou est-ce que je peux les placer directement sur, j'ai beaucoup de massifs, au pied des massifs. Je pense que les rhododendrons ne les aiment pas. Alors, est-ce que je peux l'utiliser et comment je dois l'utiliser pour l'incorporer au compost si cela est nécessaire? Merci.
Et si cela est possible, peut-être aussi.
Oui, oui, c'est possible, évidemment. Ça serait complètement dommage, et plus que dommage, presque scandaleux de ne pas utiliser les boues et les résultats du focardage dans le compost. Simplement, il faut faire attention parce que vous avez donc de la matière humide, très humide, voire carrément trempée. Donc effectivement, la faire ressuyer un petit peu 24 ou 48 heures avant de la mettre au compost et de l'associer immédiatement avec de la matière sèche, hein, dans la matière carbonée, donc feuilles mortes, paille, qu'est-ce qu'on peut mettre actuellement, du carton, éventuellement, si vous n'avez ni paille ni feuilles mortes. Les feuilles mortes, elles arrivent péniblement, puis souvent, c'est pas les meilleures en ce moment parce qu'elles sont un peu malades. Donc, l'idéal serait de mettre avec de la paille à volume égal, hein, et puis, comme le reste des composts, on retourne régulièrement avec tout l'ensemble de vos produits de jardin ou de vos sous-produits de jardin, et tout ça, ça fera un très bon compost. Et vous avez raison de dire que les rhodos n'aiment pas trop parce que justement, vous leur apportez tout d'un coup quelque chose de très gras et de très trop mouillé, et c'est pour ça qu'ils aiment pas trop ça. Par contre, une fois composté, ils vont adorer ça. Donc effectivement, alors par contre, vous pouvez le mettre directement les boues donc qui sont un petit peu comment dirais-je oxydées, réduites, vous pouvez les apporter sur des vivaces très gourmandes, hein, c'est les seuls qui vont supporter la chose. Par contre, pour le reste, bah composté, effectivement, ça va stabiliser le produit et puis ça vous permettra de l'utiliser dans tout le jardin.
Voilà, comme ça vous ne perdrez
merci
rien.
Merci beaucoup, bonne journée à vous, messieurs, dames.
Merci Jacques, à très bientôt. Au revoir. Nous allons terminer avec Annick qui est à Carnac. Bonjour Annick.
Bonjour à vous.
Annick, expliquez-nous, je crois qu'on va parler d'un grenadier.
Alors oui, j'ai un grenadier qui fleurit assez bien. Et je voulais savoir deux choses, si je pouvais faire des boutures et si je pouvais autrement le tailler et à quelle période.
Alors le grenadier, ça se taille, oui, effectivement, et ça se taille comme tous les arbres fruitiers au printemps, hein, grosso modo le mois de mars. En ce qui concerne les boutures, ça se bouture plutôt bien aussi. Alors par contre, est-ce que c'est un grenadier à fleurs simple ou double?
Je sais pas.
Il y a plein de pétales et on voit pas les étamines.
Ça tombe, ça ressemble à des étoiles. La fleur ressemble à une étoile.
Ouais. Parce que, bon, effectivement, il y a une variété qui s'appelle Flora Pleno, qui est donc une variété très double. Il n'y a que des pétales, en fait. Il n'y a pas d'étamine. Donc, elle ne peut pas faire de grenade.
Non, elle ne fait pas de grenade. Hein.
Voilà. Mais, bon, donc, ça peut être une Flora Pleno, qui est un petit peu plus dure à bouturer. Elle est un petit peu plus casse-pied. Mais sinon, ça se bouture vraiment bien. Et vous pouvez le faire encore maintenant. C'est un petit peu limite, mais c'est encore jouable maintenant. Hein, l'idéal, c'est que pour le grenadier, c'est comme pour beaucoup d'arbustes, c'est entre le 15 août et le 15 septembre. Mais, c'est encore jouable maintenant, hein. Effectivement, il fait encore des bons niveaux de température. Vous mettez éventuellement dans le salon, alors pas plein soleil surtout, hein, jamais les boutures, mais plutôt dans un endroit très lumineux, mais sans soleil direct.
À l'intérieur.
C'est mieux, ça reprendra plus rapidement.
D'accord, voilà. Et il faut l'arroser?
Alors, c'est tout le, la difficulté du bouturage. Il faut que ça soit jamais détrempé, jamais desséché.
Un petit peu. Ah oui.
Parce que la pourriture est l'ennemi numéro un de la bouture.
D'accord.
Voilà. Donc, mais normalement, sur si vous mettez moitié sable grossier, moitié terreau, vous, sur de, du grenadier, vous êtes à peu près sur du 50% de réussite.
D'accord. Moitié terreau, moitié grossier. D'accord.
Voilà, ouais. Nickel.
Eh bien, je vous remercie.
Mais de rien. Belle journée à vous. Bon dimanche.
Bonne journée à vous.
Merci. Au revoir. Philippe, avant de se laisser, on va découvrir quelques petites idées de sortie pour ce week-end,
oui,
sortie jardin.
Même sous la pluie, on prend le parapluie, hein, et puis on fait un petit tour au parc du Pont des Arts, si par hasard sous le Pont des Arts, que l'on se rencontre, tout ça. C'est à Cesson-Sévigné, et c'est des listes de plantes. Hein, alors c'était déjà hier, c'est encore aujourd'hui. Mm-hmm. Alors pour le programme d'aujourd'hui, je vous propose à 15h Denis Pépin pour une conférence sur la manière d'attirer durablement les auxiliaires et les pollinisateurs dans le jardin. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis vous allez visiter le village objectif zéro phyto, zéro pesticide, c'est le temps de s'y mettre, hein. Et puis dans la foulée, peut-être qu'on va vous faire signer des pétitions pour les distances de traitement. Et j'espère que tout le monde marquera 150 mètres, hein. Voilà. Même 200 mètres, vous avez le droit, hein. Ou zéro phyto en fait, voilà. Hein. Ça va encore plus vite. Bon, vous avez ça pour aujourd'hui. Puis vous avez aussi à Romingol, j'en parle souvent, du jardin des Wen chez Romain. C'est une association, ils ont besoin de sous. Et ils font aussi comment dirais-je, la protection du patrimoine. Il y a tout un tas de choses qui ont été refaites dans le jardin des Wen avec, ouais, donc four à pain, etc. Donc il y a toute cette partie-là qui est intéressante. Il y a un atelier sur un mur en schiste maçonné à la chaux, hein, donc à l'ancienne. Et puis il y a tout le patrimoine végétal. Et on sait que au jardin des Wen, il y a des très belles collections botaniques. Donc allez faire un petit tour. C'est 4 €, donc c'est pas trop trop cher. Et puis c'est gratuit pour les moins de 12 ans, je crois, ou peut-être même plus que ça, je ne me rappelle plus, parce que ça s'affichait sur mon téléphone. Mais que, voilà, il a décidé de se mettre en radouille. Bon, voilà. Et puis, très rapidement, pour la semaine prochaine, samedi 27, alors on est à la limite de la botanique et de l'histoire, eh bien, l'association des Amis du Pont-Clos à Gaël, en Ille-et-Vilaine, donc dans la forêt de Bosselande, va faire toute une fête autour des aviateurs américains, oui, autour d'une piste d'aviation. Alors, qu'est-ce que ça vient foutre avec la botanique? Il faut savoir que pendant l'occupation allemande, il y avait à cet endroit-là un officier allemand qui était aussi un botaniste et qui a planté énormément d'essences rares qui sont encore présentes. Donc si vous allez faire un petit tour par là pour vous faire un petit cours d'histoire, bah, vous aurez en même temps un cours de bota.
Et puis on le rappelle, en plus, c'est les journées du patrimoine. Aujourd'hui, notre patrimoine naturel, botanique, jardin, ne pas hésiter à aller le visiter. Merci à vous Philippe. Et puis on se dit rendez-vous dimanche prochain.
C'est prévu comme ça.
Bah, dimanche.
Salut Léo.
Salut.
France Bleu présente Pascal Obispo, de retour pour une tournée exceptionnelle dans toute la France.
Salut, c'est Pascal Obispo sur France Bleu.
Pascal Obispo, une nouvelle tournée riche de ses plus grands succès, des titres de son nouvel album et de quelques surprises.
J'ai hâte de vous retrouver en concert dans votre ville.
Pascal Obispo. En tournée dans toute la France et à Paris, les vendredis 22 et samedi 23 novembre, au Zénith de Paris-Lavillette. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Nous sommes le dimanche 22 septembre, il est 10h. Le journal Maxime Bossonnet et les journées du patrimoine qui continuent ce dimanche.
Jusqu'à ce soir, vous avez la possibilité de visiter des lieux historiques parfois insolites.